Salut tout le monde et bienvenue dans notre analyse détaillée du jour. Aujourd'hui, on va faire une sorte de saut dans le temps.
Ouais, un très grand saut même.
C'est clair. Imaginons un peu le scénario. On enquête sur une affaire classée, mais une affaire vieille de 4000 ans.
Ah oui, pas la petite affaire du coin, quoi.
Ben non, exactement. Et les seuls indices qu'on a, ce sont des espèces de fragments de journaux intimes qui contredisent les calendriers officiels de l'époque. On a des généalogies qui, franchement, défient toute la biologie moderne et des traductions antiques où, je te jure, à un mot près, on efface des siècles entiers d'histoire.
C'est un peu le cauchemar de tout historien, ça.
Mais totalement. Et c'est exactement le mur auquel se heurtent les chercheurs qui essayent de dater la période patriarcale. Donc l'époque d'Abraham, Isaac, Jacob.
Ouais, la genèse de l'histoire biblique, en fait.
Voilà. Et pour décortiquer ça aujourd'hui, on se base sur les notes de cours du docteur Robert Vanoy, son cours numéro 20 sur l'histoire de l'Ancien Testament, pour être précise.
Des notes qui sont vraiment fascinantes à lire, d'ailleurs.
Ah oui, ultra fouillé. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment, face à ce puzzle géant, les historiens arrivent à synthétiser des infos qui partent dans tous les sens pour construire une chronologie qui tient la route.
Et c'est pas gagné d'avance. Ce qui rend cette quête vraiment captivante, c'est le contraste énorme qu'on a entre, d'un côté, une vraie certitude culturelle et de l'autre, une incertitude chronologique totale.
Attends, tu veux dire qu'on sait ce qui s'est passé, mais pas quand?
C'est exactement ça. En fait, l'archéologie moderne a fait un boulot dingue pour valider tout le décor de ces récits. Par exemple, les sources citent les travaux de chercheurs comme John Bright. Il a démontré que les noms, la nomenclature utilisée dans les récits patriarchaux, ça correspond parfaitement au début du deuxième millénaire avant notre ère.
Genre avec une précision chirurgicale.
Ouais, on a trouvé des trucs comme les tablettes de Marie ou de Nouzi, et là-dedans, on découvre des coutumes sociales, des lois, des structures de langage, notamment des noms à forme imparfaite amorienne, et devine quoi?
Ça colle à 100% avec ce qu'on lit dans la Genèse.
C'est fou, ça! Parce que, si on y réfléchit, un auteur qui aurait inventé ces histoires 1000 ans plus tard, il aurait jamais pu deviner ça.
Ben non, impossible. Il aurait pas pu savoir quel nom ou quelle loi était à la mode à cette époque précise, vu que ses coutumes avaient disparu depuis super longtemps. Donc on peut dire que c'est un détail impossible à inventer rétroactivement, non?
Absolument. Le décor est solide. L'archéologie nous dit « Ouais, ce monde a vraiment existé comme il est décrit ». Mais là où ça commence à frotter, c'est quand on veut mettre une année précise là-dessus.
Ah, c'est là que l'horloge explose, c'est ça?
Mais littéralement. Selon les chercheurs, comme un certain Schultz par exemple, la datation de cette période, c'est l'un des pires casse-têtes de l'archéologie du Proche-Orient. Pour te donner une idée, les estimations pour l'époque d'Abraham, elles varient du 21e siècle au 15e siècle avant notre ère.
Attends, un écart de 600 ans?
Ouais, 600 ans. C'est massif. C'est comme si aujourd'hui, on n'arrivait pas à savoir si la Révolution française s'était passée la semaine dernière ou il y a 6 siècles.
Ah ouais, vu comme ça, c'est ahurissant. Et Schultz, il se positionne où là-dedans
Après avoir pas mal révisé ses propres positions au fil de ses recherches, il penche aujourd'hui pour l'année 2091 avant Jésus-Christ, comme point de départ. Donc le moment où Abraham arrive en Canaan.
D'accord, 2091.
Le simple fait qu'on ait une telle marge d'erreur, ça prouve à quel point notre système de datation moderne n'est pas du tout adapté à ces textes.
Ben oui, parce qu'en lisant les notes, j'ai réalisé un truc de dingue. Toute cette frise chronologique, elle est attachée à un seul point d'ancrage. Pour trouver le début de l'histoire, il faut commencer par la fin.
C'est ça, le paradoxe total.
On peut partir d'Abraham et avancer. Il faut partir d'une période beaucoup plus récente, donc le royaume d'Israël, et remonter le temps. C'est comme, je sais pas, calibrer une machine avec une seule roche de référence. Si ta roche est fausse d'un millimètre, tout s'effondre.
C'est une super analogie. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, c'est pour ça que ce sujet est pertinent. Dans notre époque où on est noyé sous l'information, voir comment les historiens recoupent ces indices disparates, c'est une sacrée leçon de méthodologie.
Carrément. Alors c'est quoi ce fameux point d'ancrage?
La méthodologie, elle exige de trouver une date absolue vérifiée par des archives externes, genre des données astronomiques ou des listes assyriennes. Et ce point, c'est la 4e année du règne du roi Salomon.
Ok, la 4e année de Salomon.
Voilà. Grâce à des événements croisés, comme la bataille de Karkar en 853, on peut remonter précisément jusqu'à Salomon. Et la majorité des experts aujourd'hui fixent cette 4e année à 966 avant notre ère. C'est notre fondation.
Donc, à partir de 966, on sort les calculatrices, le grand puzzle mathématique commence.
C'est ça, à toi de jouer.
Alors, je décortique. Le texte de 1 roi, chapitre 6, nous dit que la construction du temple a commencé exactement 80 ans après l'exode d'Égypte. Donc, on prend nos 966, on ajoute 480, et paf, On arrive en 1446 avant Jésus-Christ pour la date de l'Exode.
Exactement, le calcul est tout droit.
Et ensuite, on plonge encore plus loin. Le livre de l'Exode dit que les Israélites ont passé 430 ans en Égypte. On ajoute 430 à 1446, on atterrit en 1876 avant Jésus-Christ. Ça, c'est l'arrivée de Jacob en Égypte. Et là, on rentre dans les généalogies.
Les fameux âges des patriarches.
Voilà. Jacob dit au Pharaon qu'il a 130 ans, Isaac avait 60 ans quand Jacob est né, et Abraham avait 75 ans en arrivant en Canaan, donc 25 ans avant la naissance d'Isaac.
Ce qui nous fait une belle addition, 130 plus 60 plus 25, ça fait un total de 215 ans passés en Canaan avant de partir en Égypte.
C'est ça. Donc si on compile tout depuis Salomon, on a une période de quoi ? Environ 1200 ans ? Ce qui place la naissance d'Abraham en 2166 avant Jésus-Christ.
Tout à fait. Sur le papier, comme tu dis, ça a l'air super propre. C'est binaire, c'est mathématique, c'est presque rassurant.
Ouais, un peu trop rassurant même. Moi, en lisant ça, je me suis dit, ok, on empile ces chiffres comme des blocs de Lego. Mais est-ce qu'il n'y a pas un énorme risque ? Je veux dire, est-ce qu'on est sûr que ces nombres sont vraiment des données littérales et pas des, je sais pas, des formules symboliques ?
Tu mets le doigt en plein sur le problème. C'est une excellente question et c'est le cœur du débat académique. Le docteur Van Hoy, dans ses notes, insiste bien là-dessus. Le problème, c'est pas la validité du texte, c'est notre incapacité à comprendre leur système chronologique. On ne sait pas comment ils comptaient, en fait.
Ah ouais ? Donc on projette notre vision moderne ?
Complètement. Prends le livre des juges, par exemple. On y voit tout le temps des cycles de genre 40 ans de repos, puis 40 ans d'oppression, ou des fois 80 ans, 20 ans.
Des multiples de 40, quoi.
Exactement. Quand t'as une récurrence mathématique aussi parfaite, tu dois te demander si le nombre est littéral ou schématique. Et si les fameux 480 ans entre l'Exode et Salomon, c'était en fait juste 12 générations de 40 ans ? De manière symbolique. Sachant qu'une vraie génération biologique, c'est plutôt 25 ans, bah d'un coup, le temps se compresse énormément.
Ah, je vois. Et ça explique pourquoi certains chercheurs militent pour une date beaucoup plus tardive de l'Exode. Genre vers 1260 avant Jésus-Christ.
C'est ça. Et ça décale mécaniquement toute la période d'Abraham de plusieurs siècles.
Ce qui est super frustrant dans cette histoire, c'est que l'auteur biblique aurait pu nous simplifier la vie avec un seul mot.
Ah bon ?
Lequel ?
Ben, le nom du pharaon.
S'il avait écrit que le pharaon de l'Exode s'appelait, Ramsès II ou Toutmosis III, bam, la datation était réglée. Mais non, le texte l'appelle juste pharaon.
C'est vrai, c'est ouf.
C'est comme si j'écrivais un livre sur la Seconde Guerre mondiale en appelant Winston Churchill juste le Premier ministre, sans jamais donner son nom.
C'est ça. Mais cette omission qui, on va pas se mentir, rend les historiens fous aujourd'hui, elle prouve un truc essentiel. Les priorités de ces auteurs antiques n'étaient pas du tout les nôtres.
C'est-à-dire ?
Ben, le nom du souverain terrestre, le pharaon, théologiquement, il n'avait aucune importance face au grand récit de la libération. Ils s'en fichaient de la précision historique à la seconde près.
Ouais, le message passait avant le calendrier.
Exactement. Mais si la date de l'Exode est un débat, attends de voir la durée de l'esclavage en Égypte. Là, on rentre dans un conflit textuel absolument fascinant, une vraie bataille de manuscrits.
Ah oui, le fameux débat entre 430 ou 215 ans. C'est là que ça devient vraiment croustillant.
C'est un cas d'école en critique textuelle, oui.
Donc, le point de départ, c'est Exode 12, verset 40. Le texte massorétique, qui est la base hébraïque de nos traductions modernes, il dit très clairement que le séjour en Égypte a duré 430 ans.
C'est ça, clair, net, précis.
Sauf que... quand on regarde la Septante, donc la traduction grecque faite à Alexandrie quelques siècles avant notre ère, il y a un ajout qui fait l'effet d'une bombe. La Septante dit que les 430 ans couvrent le séjour en Égypte et le séjour en Canaan.
Et cette petite nuance change tout.
Elle détruit le calendrier, oui, parce qu'on vient de calculer que les patriarches ont passé 215 ans en Canaan. Donc si on suit la Septante, on doit soustraire ces 215 ans des 430. Ce qui fait qu'il ne reste que 215 ans pour l'esclavage en Égypte.
Exactement la moitié.
C'est un truc de fou. C'est comme si on avait deux éditions officielles du même livre d'histoire et que l'ajout de trois petits mots effaçait purement et simplement deux siècles entiers de l'histoire d'un peuple.
C'est brutal, oui. Alors, pour comprendre, il faut savoir que les traducteurs de la Septante étaient des érudits brillants. L'ajout de Canaan, c'était sans doute pas une erreur de traduction, mais plutôt une tentative d'harmoniser les choses. Ils voyaient déjà des tensions chronologiques à leur époque.
Mais au final, on préfère lequel aujourd'hui ?
Dans le milieu académique, on privilégie généralement le texte massorétique. D'abord parce que c'est la source hébraïque directe, mais aussi à cause des validations internes. Par exemple, Genèse 15 annonce prophétiquement une affliction de 400 ans. Un chiffre rond, pour 430, ça colle parfaitement. Mais ça contredit de front la version courte de 215 ans.
D'accord, mais comment on tranche vraiment? Parce qu'on ne peut pas juste choisir la version qui nous arrange.
Non, bien sûr. Et c'est là qu'on sort de la théologie pour appeler les mathématiques et la démographie à la rescousse.
Ah, j'adore quand on croise les disciplines.
Alors écoute bien les chiffres. Le texte dit que la famille de Jacob comptait 82 individus en arrivant en Égypte. Et à la sortie, lors de l'Exode, le recensement compte environ 600 000 hommes en âge de se battre.
600 000 hommes! Donc si on ajoute les femmes, les enfants, les personnes âgées, on est facilement à 2 millions de personnes, non?
Voilà, environ 2 millions. La question devient purement mathématique. Comment tu passes de 82 personnes à 2 millions? Et en combien de temps?
Alors, j'ai vu que des chercheurs comme Franz De Litch et Leon Wood ont fait le calcul. Une multiplication par 24 000, c'est pas rien. De Litch a prouvé que sur 430 ans, avec la polygamie de l'époque et un taux de natalité, disons, de 6 enfants par famille atteignant l'âge adulte, sur 10 générations, le modèle tient la route. La population a le temps d'exploser.
C'est tout à fait ça. Mathématiquement possible.
Par contre, si on coupe cette période en deux, donc les 215 ans de la Septante, la courbe, elle se brise net. Atteindre 2 millions en 215 ans à partir de 82 personnes, ça demanderait un taux de natalité biologiquement impossible, même avec les meilleures conditions du monde.
C'est pour ça que la démographie penche lourdement en faveur du séjour long. Et la linguistique vient aussi appuyer ça.
Ah oui, avec Genèse 15, le texte dit qu'ils reviendront à la quatrième génération. Et le mot hébreu, c'est dor, c'est ça?
Exact. Aujourd'hui, une génération, pour nous, c'est 25 ans. Donc 4 générations de 25 ans, ça fait un siècle. Ça colle pas du tout avec les 400 ans d'esclavage.
C'est là que l'égyptologue Kenneth Kitchen intervient. Il explique qu'en ougaritique, une langue voisine de l'époque, ce terme qui ressemble à d'or désigne pas le temps entre un père et son fils, mais un cycle de vie entier, genre 80 ans ou plus.
Et voilà, ça change tout le calcul.
Bah oui, 4 fois 80, ça fait 320 ans. Et si le cycle était un peu plus long, on arrive vite aux 400 ans. L'erreur, c'est d'utiliser notre dictionnaire d'aujourd'hui pour traduire un mot vieux du 4000 ans.
C'est le piège classique. Donc, l'hébreu dit 430, la démographie le valide, et la linguistique explique l'histoire de la génération. On pourrait se dire, affaire classée, le texte massorétique gagne par chaos.
Sauf que, il y a un problème de taille qui débarque, et il vient tout droit du Nouveau Testament.
Ah oui, l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 17. Paul, qui connaissait les Écritures sur le bout des doigts, écrit que la loi de Moïse est arrivée 430 ans après l'alliance avec Abraham.
Ce qui pose un énorme souci. Si la loi arrive à l'Exode et que l'alliance a été faite avant même la naissance d'Isaac, soit 215 ans avant l'arrivée en Égypte, Paul soutient carrément la version courte de la Septante.
Complètement. Si tout le laps de temps entre Abraham et Moïse fait 430 ans, alors le temps en Égypte ne peut faire que 215 ans.
Mais comment ils gèrent cette contradiction, les chercheurs? Parce qu'on a l'Ancien Testament et la biologie d'un côté, et le Nouveau Testament de l'autre.
La clé, c'est de comprendre ce qu'était une alliance à l'époque. C'était pas un contrat que tu signes une fois et que tu ranges dans un tiroir. C'était vivant. Ça devait être réitéré.
Un peu comme un renouvellement de vœux.
Exactement. Et le texte montre ça. L'alliance d'Abraham a été renouvelée avec Isaac, puis avec Jacob. Le moment clé, c'est Genèse 46. Juste avant de partir en Égypte, l'alliance est solennellement réaffirmée à Jacob.
D'accord, je vois où tu veux en venir.
Les chercheurs disent donc que les 430 ans mentionnés par Paul dans Galates ne commencent pas à la première signature avec Abraham, mais à cette dernière réaffirmation avec Jacob au moment d'entrer en Égypte. Ça résout la tension sans invalider aucun des textes.
C'est super élégant comme solution. Mais ça nous ramène à une question posée par un étudiant dans les notes du docteur Van Hooy sur la biologie et l'espérance de vie.
Ah, la fameuse question sur Sarah et Abraham.
Oui, il y a. L'étudiant dit, en gros, Sarah riait d'avoir un enfant très tard, mais elle était encore assez belle pour attirer le roi Abimelech. Et Abraham a vécu 175 ans. Si leur biologie était si différente, est-ce que c'est pas dangereux d'imposer notre définition moderne du vieillissement sur ces textes?
Et le docteur Van Hooy valide cette observation à 100%. Si une vie normale dure 175 ans dans ce paradigme, les périodes de vitalité, de fertilité, l'apparence physique, tout ça s'étale sur une échelle qu'on ne connaît pas.
C'est clair. Le concept même de vieillesse n'a plus de sens avec notre chronomètre moderne.
Impossible de plaquer nos paramètres sur leur réalité.
Ce qui nous amène à la fin de cette exploration. Quel voyage quand même. On est parti du règne de Salomon en 966, on a fait des maths avec des généalogies, on a vu comment deux mots en grec peuvent effacer des siècles, on a parlé de démographie et d'espérance de vie.
C'est un exercice de synthèse vraiment colossal.
Et la leçon pour ceux qui nous écoutent, elle est frappante. Face au flux d'infos d'aujourd'hui, on ne doit jamais accepter une donnée isolée sans comprendre comment elle a été obtenue. Un petit mot traduit différemment, ou un chiffre symbolique pris au pied de la lettre, et c'est toute l'histoire d'une civilisation qui bascule.
Tout à fait. Et ça amène une dernière pensée un peu provocatrice pour conclure. On s'acharne tous à faire rentrer la chronologie ancienne dans nos grilles de lecture modernes, hyper structurées, avec nos montres et nos calendriers exacts.
Ouais, on veut que ça rentre dans les cases.
Voilà. Mais si cette obsession de la précision mathématique nous empêchait de voir l'essentiel, pour ces auteurs antiques, le temps, c'était pas une ligne droite et rigide. C'était d'abord un outil théologique. Les nombres schématiques, les cycles, ça servait à donner du sens à l'histoire humaine, à montrer un ordre cosmique, plutôt qu'à fournir un rapport d'ingénieur.
C'est une pensée fascinante. La prochaine fois que je regarderai ma montre pour compter les secondes, je me dirais que c'est une invention très récente, et bien loin de la façon dont l'humanité a compris son histoire pendant des millénaires. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.